Tech Café, c'est votre rendez-vous sur les nouvelles technologies. Avec nous, vous restez au courant de ce qui se passe et on vous partage nos regards critiques. Cette semaine, Tech Café est exceptionnellement diffusé en deux parties. Dans cet épisode, vous saurez tout sur les nouveaux produits Surface de Microsoft. Il faut dire qu'il y a du nouveau et beaucoup de choses et beaucoup de matière à relayer. Plus tard cette semaine, la seconde partie de Tech Café sera consacrée à une rubrique sécurité, une section jeux vidéo. Les news en vrac et nos bonus. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et pour parler des annonces Microsoft, j'ai le plaisir de retrouver celui dont le travail avait déjà été identifié il y a plusieurs années sur les origines des produits qui ont été annoncés il y a quelques jours. Expert Microsoft et journaliste chez Frandroid, c'est Kassim Kedfi. Salut Kassim.
Salut, bonjour. Ça va ?
Bonjour, ça va très bien, merci beaucoup de te joindre à nouveau à nous dans Tech Café. T'étais là il n'y a pas très très longtemps, mais c'est un grand plaisir de te retrouver.
Bah, je t'avais teasé l'event même en plus.
Oui, effectivement, tu l'avais teasé, et bon, il était inscrit dans les plannings, mais bon, parfois on peut être déçu, et parfois on n'est pas déçu. Donc là, il y a matière à dire, et bien sûr, je retrouve celui sans qui Tech Café ne serait pas Tech Café, chroniqueur du savoir autour de machines de jeu, et peut-être, de la suite, bientôt, allez savoir, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume.
Oui, salut à tous, bonjour.
Je dis ça parce qu'on nous a demandé la suite des machines de jeu, donc je t'ai transmis le message.
Genre, faut pas, c'est pas fait, mais bon, enfin ça, c'est une hypothèse, ça fait son chemin.
Une préparation de longue durée à laquelle il va falloir s'atteler. Vous le savez maintenant, Tech Café est disponible en financement participatif sur la plateforme Patreon. Pour toutes les infos, c'est patreon.com/techcafé. Le principe, il est simple, c'est que vous pouvez soutenir l'émission à partir d'un euro par semaine et plus si affinité. Évidemment, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont choisi de soutenir l'émission. On attaque tout de suite avec quand même une première pré-rubrique à chaud, mais vous allez voir que ça va nous introduire doucement sur notre grand dossier de la soirée qui sont les produits Surface. À chaud donc, les premiers tests et stress tests du Galaxy Fold ont été menés. On commence à voir quelques jours de recul sur le produit, Guillaume.
Oui, ça y est, écoute, il est là, il existe, c'est le premier du genre, le Galaxy Fold, donc le téléphone client, c'est un vrai produit, c'est plus juste un fantasme, une vue de l'esprit. Il y a des gens qui ont pu le tester, vraiment, il y a des gens qui pourront l'acheter un petit peu, parce que c'est quand même 2 200 €, c'est quand même vraiment très très cher. Il est globalement fidèle au truc auquel on s'attendait, quoi. C'est-à-dire que c'est un téléphone très 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 atypique, avec des bons et des mauvais côtés. Et globalement, les retours sont assez partagés. C'est-à-dire que globalement, les gens sont impressionnés, trouvent que c'est un vrai tour de force, mais ils l'achèteraient pas. Et on peut le comprendre, vu le prix. Et aussi, il y a une forme d'effroi, on dirait, vis-à-vis de ce produit qui est totalement nouveau. Et donc, on ne sait pas réellement s'il sera aussi durable que ça. Alors, on a une petite idée, puisqu'il y a des stress tests donc, qui ont été faits en marge de ce test, des tests plus standards. Il y a c'était ZDNet ou 01.net, je sais plus. Enfin, en tous les cas, un des deux de sites qui s'était amusé à mettre un robot pour plier et déplier le smartphone. Alors, Samsung, lui, annonçait 200 000 pliages-dépliages avant que le smartphone ne risque de casser. Et en fait, c'est plutôt 120 000. Alors, 120 000 pliés-dépliés à raison de 50 fois par jour, ça fait quand même 3 ans, je crois. Ce qui est pas mal, mais ce qui est quand même en dessous de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Alors, c'est plus, ça dépend. Est-ce que vous pensez que vous le déplierez plus de 50 fois par jour? Je sais pas. Toujours est-il qu'iFixit s'est aussi penché sur la machine, qui a pu mettre la main dessus. Évidemment, il l'a désossé. Et globalement, c'est une belle machine. Enfin, c'est très très impressionnant aussi à défaire. Ils étaient contents de voir que, alors qu'ils avaient défait le premier exemplaire, la première version du Galaxy Fold, et qu'ils avaient détecté pas mal de problèmes potentiels, il y a pas mal de choses qui ont été corrigées, on va dire, sur cette version 1.1 du Galaxy Fold. Et donc, ce Galaxy Fold est mieux que la version 1, mais elle est quand même, et de manière alarmante, je cite, fragile, toujours, et elle a un indice de réparabilité qui est extrêmement faible, à 2 sur 10, ça aussi on s'y attendait un petit peu. Donc ce Galaxy Fold, en fait, on va dire que c'est plutôt une sorte de téléphone collector commémoratif, d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'il est pensé par Samsung, étant donné qu'il va être vendu uniquement pendant 2 mois, je crois. En fait, il sera plus disponible très très bientôt, donc si vous voulez l'acheter, ne serait-ce que pour avoir d'objets collector, c'est maintenant, mais c'est pas dans un an.
Ça fait un peu le syndrome des concept cars qu'il y a sur les salons de l'automobile, hein, ces véhicules incroyables mais qui sont pas commercialisables, sauf que là il est vraiment commercialisé. Et puis surtout il y a eu toute cette phase où il a été retiré de sa commercialisation pour être revu parce qu'il y avait des gros soucis. C'est un peu un fantasme et je crois que ça va être un peu le fil rouge de toute notre émission d'avoir un appareil pliant. On va évidemment en reparler juste après avec les annonces Surface. Kassim, c'était toi qui nous disais la dernière fois, j'ai échangé avec toi, je sais plus si c'était pendant ou après l'émission, mais en tout cas tu nous faisais part du fait que le Samsung Galaxy Fold, quand il était arrivé dans la rédaction, en gros c'était quand même l'attroupement de toute l'équipe qui venait se pencher dessus pour le découvrir. Cet attrait, est-ce qu'il s'est confirmé au bout de quelques jours?
C'est sûr que il suscite l'attrait, ouais, parce que c'est la première fois qu'on change de design fondamental d'un smartphone depuis l'iPhone de 2007, quoi, en fait. Hein. On a eu des appareils qui ont évolué, qui ont des écrans borderless et tout, mais on a gardé un peu la même idée, la même philosophie d'un rectangle à écran tactile, quoi. Avec ce Galaxy Fold, on part complètement dans autre chose, avec un appareil plutôt hybride et qui a vraiment un look futuriste. Et clairement, quand il est arrivé à la rédaction, tout le monde est venu l'essayer. Maxime, qui était en charge du test, il a laissé 24 heures le téléphone sur le bureau pour que tout le monde puisse faire des allers-retours.
Mémuse
avant de se lancer vraiment dans le test, quoi. Et bon, après, il s'est lancé dans le test et comme Guillaume le disait très bien, c'est un truc qu'on ne conseillerait pas d'acheter et qu'on n'achèterait pas pour nous-mêmes, tout simplement parce que c'est une version 1, mais ce n'est pas une critique vraiment au final des choix de Samsung, c'est purement parce qu'on sait que c'est une version 1. Et un peu comme le Galaxy Note premier du nom ou l'iPhone même premier du nom, on s'en souvient un peu aujourd'hui, mais l'iPhone premier du nom, il n'avait pas la 3G et il n'avait surtout pas l'App Store.
Exact. Exact. Ouais. C'était que des web apps. D'ailleurs, Steve Jobs mettait en avant le fait que l'avenir, c'était pas les apps, mais c'était les web apps. Bon, c'est ce qui s'est passé depuis.
Donc, on s'en souvient un peu, mais voilà. Donc, c'était version 1 et il a fallu attendre quelques itérations. Même l'iPad premier du nom, par exemple, n'était pas forcément au top. Il a fallu attendre l'iPad 2 pour avoir quelque chose de plus léger et fin. Là, pour le Galaxy Fold, clairement, c'est pareil. C'est une première étape. Ils avaient besoin de le commercialiser pour marquer l'histoire et puis pour aussi, enfin, ça, c'est utile pour Samsung, ça va leur servir à prendre pour la version 2. Et c'est la version qu'on va attendre et on va espérer une baisse de prix aussi et quelque chose qui va rentrer peut-être un peu plus dans un tarif grand public, quoi.
Ouais. En attendant. Ouais, parce que là, je me rappelle plus du tarif, mais c'est quoi?
2100 euros.
Donc voilà, c'est quand même pas neutre.
C'est clairement pas. Vous vous souvenez, il y a deux ans qu'on râlait parce que l'iPhone coûtait 1300 euros.
C'est voilà. Clair.
Mais toujours est-il que. L'exploit technologique est là, mais il y a plein de problèmes. Oui, par exemple, tu peux pas utiliser le téléphone. Enfin, quand tu le replies et qu'on utilise l'écran extérieur, par exemple, l'écran extérieur est vraiment très petit et très peu pratique à utiliser. L'écran intérieur est très fragile. Tu peux pas. On s'en rend pas compte comme ça dans les vidéos, mais tu ne peux pas avoir de position intermédiaire, et ça on y reviendra aussi plus tard. T'es forcément soit complètement plié, soit complètement déplié, il n'y a pas d'autres possibilités.
Bon, il fonctionne quand il est plié en gros à 90 degrés, mais l'usage n'est pas évident.
Non, t'as un ressort.
Ah, t'as un ressort.
Enfin,
okay.
Tu es vraiment obligé de le coincer dans une des deux positions, tu peux pas le coincer dans l'intermédiaire.
D'accord. Puis se pose quand même la question à chaque fois qu'on parle de ce produit, et là aussi ça va nous amener à parler des autres propositions de cet épisode, de l'usage de ce type d'appareil, c'est-à-dire que pour l'instant on a des usages un peu fenêtrés des applications, mais a priori rien de vraiment plus révolutionnaire que simplement un écran plus grand avec un format d'écran, on parle de form factor, un format un peu carré ou équivalent en tout cas, donc ce qui est un petit peu déroutant au niveau des usages, mais on va en reparler. Et à l'appui de ces petites news à chaud qui sont donc les premiers tests qui commencent à être un petit peu étoffés du Samsung Galaxy Fold, on passe à notre grand dossier de cette émission qui sont les produits Surface. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une annonce, enfin un dossier comme ça aussi là et qui va prendre autant de place dans nos échanges de la part d'annonces de Microsoft. Et en particulier, alors il n'y a pas de débat, hein, tout ça, ça s'appelle des surfaces, vous allez avoir des surfaces en veux-tu en voilà dans tous les styles. D'ailleurs, au passage, une gamme avec des noms de produits qui sont bah, plutôt identifiables, je trouve. On peut avoir encore quelques réserves sur les Surface Pro, Pro X, etc. On va en reparler un petit peu après. Un petit mot avant de détailler les produits, parce que finalement, on a été surpris. On a été surpris, moi, j'ai été surpris par tes SMS, Kassim, puisque j'avais pas vu la présentation de Microsoft. J'ai regardé, du coup, la présentation de Microsoft dans la soirée en vidéo. J'ai été surpris du fait qu'ils avaient réussi à maintenir le secret. Alors, on baigne hein, dans les ligues du Pixel 4 qui va être annoncé à la mi-octobre, dans quelques jours. On sait déjà, je pense, vraiment énormément de choses de ce smartphone. Côté Apple, c'est pareil, ils sont très scrutés et on avait découvert beaucoup, beaucoup de choses. Restaient quelques détails qui nous ont été révélés, mais rien de révolutionnaire. Mais Microsoft nous a surpris par, non pas sa gamme de produits, mais par certains produits dont on va arriver juste après. On va faire un menu fretin avec les gammes de produits qui sont mises à jour. Kassim, peut-être quelques mots sur cette gestion du secret, parce que tu as rappelé il y a quelques jours sur Twitter que tu avais fait une première enquête il y a de ça 2 ans. Vous aviez mené une enquête où vous aviez identifié pas mal de choses qui tournaient autour d'un revival de ce produit courrier de Microsoft qui est une espèce de prototype historique à double écran. Cette gestion du secret, est-ce que tu peux me confirmer que dans la rédaction chez Frandroid et de manière générale, tout le monde a été un peu surpris quand même?
Ah bah oui, clairement. Bah c'est... Je citais deux moments vraiment... important pour la rédaction là sur les quelques dernières semaines, et c'était le premier, c'était la réception du Galaxy Fold, et clairement le deuxième, c'était cette annonce surprise du retour de Microsoft dans le marché des smartphones, qui est quand même pas rien, et ça a vraiment surpris tout le monde, et la rédaction était vraiment en ébullition quoi pendant quelques minutes, et même dans les jours suivants, on a fait beaucoup d'articles, chacun a fait son petit édito. Chacun a fait son petit article avec un angle bien spécifique sur, quelque part, la façon dont il avait un peu vécu ça, ou enfin, en tout cas, qu'est-ce que ça lui donnait envie d'écrire comme sujet, quoi. Donc, c'est vraiment un événement assez particulier, et c'est vrai que c'est dans un moment où, clairement, toute l'année, nous, on n'est pas surpris par les annonces, parce que notre métier, c'est d'aller chercher chaque fuite et d'aller traiter chaque rumeur et de vraiment préparer chaque conférence. Et donc, on est rarement surpris, et même, on va être honnête, depuis quelques années, on commence un peu... Enfin, on a presque l'impression qu'on commencerait à s'ennuyer, et ce serait vraiment un tort, parce qu'en fait, le marché ne s'ennuie jamais, finalement, et là où on pensait, bon, bah, voilà, ça y est, on est arrivé aux écrans borderless, maintenant, on est arrivé au bout, le sujet, le marché est mature, on va s'ennuyer maintenant, et en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui arrive... et donc cette annonce Surface aurait vraiment été surprenante, et je trouve effectivement qu'on c'est pas la première fois que Microsoft réussit à faire un petit coup comme ça, c'est la première fois qu'ils le font avec autant de
force, d'impact,
et que les gens le remarquent autant, et c'est vrai qu'on leur donnait pas assez de crédit jusque là peut-être sur la façon dont ils arrivent à garder le secret, mais par contre j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de secret sur la façon dont ils gardent le secret. C'est tout simple. C'est qu'ils ont dans leur bureau déjà la possibilité de créer de bout en bout les produits qu'ils conçoivent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment littéralement une usine, une mini-usine dans les bureaux de Redmond de Microsoft où ils peuvent vraiment prototyper de A à Z un produit. Ils ont mille et un matériaux à leur disposition. C'est assez... Ils avaient déjà fait une démonstration vidéo, en fait une visite vidéo de cet endroit, et c'est assez impressionnant à regarder de voir ces machines assez géantes prêtes à travailler un clavier, un écran à tout moment. Et alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est tout simplement d'annoncer les produits, s'ils veulent vraiment faire la surprise, longtemps en avance. C'est ce qui leur garantit vraiment de garder le secret. Si Apple, par exemple, n'arrive plus à garder le secret sur ses produits, c'est parce qu'ils savent que... Enfin, on sait que l'iPhone, il est annoncé en septembre et qu'il sortira commercialement dans les 2 semaines suivantes, ce qui veut dire livrer dans la plupart des pays du monde un certain nombre de produits, donc les fabriquer en avance, donc les faire fabriquer en Chine, et prévenir le marketing, prévenir les services de distribution. Donc tout ça, c'est autant de personnes qui sont au courant de l'annonce et autant de personnes qui peuvent faire fuiter des informations. Et ça, Microsoft, quand ils annoncent des produits longtemps en avance, et là particulièrement pour ces deux produits-là, ils peuvent garder le secret en fait.
Il faut quand même que je touche un mot un peu par rapport à l'annonce en tant que telle, moi, de ma perception. Alors, je confesse, ne m'en voulez pas, expert Microsoft, je ne connaissais pas Panos Panay, qui est le monsieur en charge de la division Surface chez Microsoft et qui a évidemment rythmé une bonne partie de cette présentation. C'était à la fois intéressant et déroutant. Moi, ça m'a vraiment pesé au début de cette présentation, le fait qu'il nous parle de sa fille qui jouait du piano, qui apprenait et qui développait son art de jouer du piano et qui se retrouvait face à un instrument qui était toujours disponible, qui répondait parfaitement bien pour de la création. Bon, j'ai trouvé toute cette analogie assez longue, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que comme il l'a posé, on pouvait y faire référence assez, de manière assez récurrente dans toute la présentation. Et ça permettait de justifier un certain nombre d'éléments. Alors, c'était presque aux risques et périls de la réactivité des appareils qui étaient présentés. On va en reparler. Guillaume, peut-être un petit mot. Est-ce que toi, tu l'as vu, la conférence, en accéléré ou en complet? Et puis, un petit mot peut-être sur le contexte général de Microsoft. Parce que une des explications pour lesquelles ça n'a pas fuité, c'est peut-être aussi qu'on n'attend plus trop Microsoft sur le plan de la révolution des appareils en hardware, non?
Bah oui et non, mais disons que comme tu l'as dit, il y a quand même eu quelques petits espoirs sur ce fameux courrier qu'on attend depuis quand même, je sais pas, 10 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est, mais non, je sais pas si on attend plus Microsoft là-dessus ou pas, mais il y a quand même eu de grosses surprises, effectivement. Moi, j'ai été aussi très surpris et très intéressé, parce que c'est vrai que c'est quand même pas tous les jours que un grand constructeur comme ça montre des produits qui sont vraiment nouveaux, quoi, qui apportent vraiment quelque chose d'un petit peu neuf, d'un petit peu frais. Parce que comme le disait Cassim, c'est vrai que bon ben voilà, ça ronronnait quand même, hein, les téléphones. Maintenant c'est mature, ok. Une fois qu'on a atteint les bords et qu'on les a dépassés, qu'on dégouline de tous les deux côtés, comme
qu'on fait du 180 degrés d'écran,
qu'on a dépassé les 100% de surface écran, bon, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu Donc du coup, ouais, et franchement, j'ai beaucoup aimé, moi, cette keynote. Je trouve qu'il y a plein de trucs vraiment intéressants, au niveau stratégique qu'au niveau des nouveaux produits, quoi. Et est-ce que je m'y attendais? Ben non, hein, parce que voilà, je comme vous, hein, moi je me suis, enfin, comme toi, Guillaume, tous les cas, je m'attendais pas forcément à voir des trucs aussi nouveaux, aussi neufs, et donc je suis assez content, ouais.
Alors, on va les prendre dans l'ordre, je suis désolé, on va parler des produits peut-être les moins excitants, ou en tout cas ceux qui sont les moins révolutionnaires. Voilà, comme ça on les... Bien joué. Comme ça on les plie, et puis surtout on aura tout loisir de parler plus longuement de ce qui nous a, je pense, plus étonné. Alors, on va commencer par le Surface Laptop 3, qui est tout simplement le laptop, hein, du côté de chez Microsoft, avec deux versions, deux tailles d'écran, donc 13 pouces et demi et 15 pouces, avec une puce AMD Ryzen qui a été développé sur mesure avec Microsoft, et une AMD Vega pour la partie graphique, un port Surface Connect à charge rapide, et surtout, alors je pense que c'était aussi ça qui commençait à faire vieillir les machines, c'est l'absence de port USB-C. Donc désormais il y a un port USB-C mais un port USB-A, et la possibilité technique de changer le stockage SSD. Là on peut faire référence au MacBook, hein, aux appareils d'Apple qui ne permettent pas du tout de changer la taille de stockage. Donc là c'est possible. Alors c'est pas accessible au commun des mortels, je crois, on va pouvoir rentrer dans les détails ensemble, mais je crois que c'est pas possible de le faire hyper facilement à titre individuel, en tant que particulier, en tout cas pas recommandé. Et puis il est proposé aussi avec un Intel Core de 10e génération, ou donc avec un processeur custom Ryzen. Kassim, premier aperçu sur ces laptops, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est pas tout simplement quand même un peu une bonne continuité, si ce n'est cette conception sur le plan des processeurs?
Oui, c'est vraiment le produit le plus classique de Microsoft pour le coup, et un peu le plus ennuyeux presque qu'ils l'avaient lancé, le premier, un peu comme un produit reconditionné par rapport à la Surface Pro. C'est-à-dire qu'en fait, si tu observes à l'époque, si tu observais, tu voyais que c'était le même processeur, c'était la même connectique, et en fait c'était juste plus ou moins t'avais l'impression que c'était plus ou moins la carte mère de la Surface Pro qu'ils avaient glissé dans un PC portable un peu plus classique, quoi. Là, bon, le produit, j'ai envie de dire, prend un peu ses ailes et gagne avec cette puce AMD un peu son originalité à l'intérieur de la gamme Surface. Après, oui, ça reste un PC portable complètement classique, qui d'ailleurs est de plus en plus classique, puisqu'il perd le clavier...
Le
revêtement en tissu en Alcantara. Sur la version 13 pouces, tu as le choix, et sur la version 15 pouces, tu n'as plus le choix, tu n'as que de l'aluminium, une finition aluminium, type Apple, quoi.
Guillaume, on ne peut pas s'empêcher de oui. évidemment, au-delà de ton avis, de t'interpeller sur la partie des processeurs quand
oui,
même.
Oui,
c'est
oui,
là bon, aussi une belle nouveauté.
Oui, alors j'ai beaucoup lu que c'était que ça y est, Microsoft allait designer ses propres puces et tout en partenariat avec AMD. Non, c'est pas du tout le cas. Hein. Là, on est en face d'un truc semi-custom qui est très 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 légèrement modifié par rapport à quelque chose de stock, hein, puisque c'est un Ryzen avec une puce Vega un petit peu plus grosse, avec voilà quelques cœurs de plus du côté graphique, tout simplement pour alimenter de la puissance pour ceux qui vont faire voilà, du montage vidéo ou du rendu 3D, ou même un petit peu de jeu léger. Et aussi, probablement, ils ont quand même travaillé avec AMD pour voilà, optimiser le châssis, pour que ce soit quand même vraiment très très fin, et pour optimiser la durée de vie de la batterie, qui est quand même promise à 11h30, ce qui est quand même assez énorme. Donc il n'y a que le modèle de 15 pouces qui bénéficie du Ryzen. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que c'est pas de l'Intel, hein, et que c'est la première fois que... déjà, c'est la première fois que Microsoft fait ses propres puces. On va en reparler pour la Surface X, et bien entendu. Disons, customise ses propres puces. Mais bon, pour la Surface X, effectivement, ce sera la même chose. On sera en face d'une puce qui sera un petit peu personnalisée, mais qui sera globalement quasi identique à une puce stock, même si stricto sensu, cette puce-là ne peut pas être trouvée dans le commerce. Bon, le Ryzen qui est utilisé dans la Surface, c'est quand même un Ryzen, quoi. Il n'y a pas énormément de choses. Cela dit, il y a quand même une puissance, enfin, il concentre quand même une puissance qui est assez, assez importante, puisqu'on parle d'une puissance comparable à celle d'une Xbox One, une Xbox One S, hein, pas X, ce qui est déjà très correct pour un châssis de cette finesse-là, donc c'est quand même assez intéressant. Et donc, stratégiquement, c'est vraiment, c'est assez intéressant de voir aussi Microsoft se tourner vers AMD qui devient donc un concurrent très 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 sérieux pour Intel et avec lequel il peut faire des choses qu'apparemment il ne peut pas faire avec Intel puisque il a jamais réussi à avoir un Core i5 avec une partie graphique customisée en tout cas pour lui alors qu'il peut le faire avec AMD. Il avait déjà fait avec Xbox donc ces liens AMD Microsoft deviennent vraiment de plus en plus étroits, c'est intéressant.
Je pense que... Est-ce que... Vas-y, Kassim.
Ce qui est intéressant, en plus, ça va dans le même sens, c'est que Surface a toujours ce rôle un peu de montrer la voie aux autres fabricants. Et en choisissant une puce AMD, je pense que Microsoft envoie aussi le signal aux fabricants de PC portables qu'ils peuvent y aller, ça y est, ils peuvent commencer. Parce que autant AMD a vraiment montré qu'il était de retour sur le marché des PC de bureau et les joueurs choisissent des processeurs AMD de plus en plus. Autant sur le marché des PC portables, t'es dépendant de ce que les fabricants de PC choisissent pour leur design. Et pour l'instant, on était quand même majoritairement sur de l'Intel encore de façon assez hégémonique. Et là, AMD a l'air de revenir dans la course. Et à mon avis, ce choix de Microsoft, il est assez déterminant pour pousser AMD et pousser la concurrence sur le marché, en fait.
Bon, le message est très clair. Alors, en tout cas, sur les laptops 3, donc on est sur des produits, je crois que c'est des hors-taxes et américains, donc il faut rajouter les équivalents de TVA et compagnie, mais c'est $999 en version 13 pouces et $1200 en version 15 pouces. Ultime question avant de passer à la suite, est-ce que vous pensez que si on trouve des laptops 2 à prix intéressant, ça peut être des bons produits vers lesquels se tourner? Peut-être Guillaume, toi qui as la connaissance de l'usage des processeurs et de leur durée de vie.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est clair et c'est net. C'est un rafraîchissement qui est bienvenu, mais si vous trouvez un Surface Laptop 2, ça restera une très bonne machine de toute façon, pas de problème.
Bon, continuons à appeler tout ça Surface, ne me méprenez pas, c'est bien le Microsoft Surface Laptop 3, moi je trouve que toute cette gamme est plutôt claire, il n'y a que des Surfaces. Donc, ce qui a suivi cette annonce, c'est la Surface Pro 7, donc c'est vraiment la tablette, c'est la vision tablette-to-ordinateur, le laptop était vraiment l'ordinateur portable, et la Surface, c'est maintenant la tablette que vous connaissez bien, moi j'ai pas pu m'empêcher, je crois qu'il n'y a pas que mon côté fanboy qui a parlé, de le comparer dans mon inconscient à l'iPad Pro, puisqu'on est vraiment sur la même promesse d'avoir une tablette, un stylet, un clavier. Ici, pas de chichi, pas de tralala. Vous avez la souris qui fonctionne comme une vraie souris. Hein. C'est pas un gros point comme dans iOS 13 avec un iPad Pro. Un trackpad intégré sur l'accessoire. On est finalement, grosso modo, sur des mêmes gammes de prix qu'un iPad Pro quand on prend tous les équipements qui vont bien. Il y a de l'USB-C et de l'USB-A. Donc, il y a plusieurs ports en plus du Surface Connect. Il y a accessoirement, ils ont fait la démo de micro. Alors, j'ai du mal mal, moi, à vraiment comprendre en quoi les micros sont nouveaux, mais a priori, bon, les instructions à la voix sont plutôt pertinentes et surtout arrivent à bien isoler le son de la personne qui parle versus les bruits environnants. Bon, très bien, on va reparler des micros juste après et des interfaces vocales puisqu'il y a un produit dédié à ça et qui sera disponible aux États-Unis le 22 octobre avec un prix qui commence à $749. Ils sont déjà en précommande. Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de comparer ça avec l'iPad Pro dans la mesure où, dans la philosophie, on a finalement un peu le même produit dans les deux cas. Dans le cas de la Surface Pro 7, c'est un PC qu'on a tablettifié, pour moi, avec derrière Windows 10, donc l'environnement de l'OS que vous connaissez bien. Et puis, côté iPad Pro, un système d'exploitation pour mobile qui se veut desktopifié, si j'ose utiliser le terme. C'est deux approches très différentes avec, gardons-le aussi à l'esprit, des éventails d'applications qui ne sont pas exactement les mêmes. Pour l'iPad, on a évidemment un App Store qui est immense, avec plein de possibilités d'applications, mais du côté de la Surface, des applications PC pures et dures, qui peuvent tourner facilement sur cette tablette-là, évidemment, puisqu'elles sont aussi pensées pour, et notamment, on nous a fait la démo, si je ne dis pas de bêtises, c'était sur la Surface Pro 7 d'Adobe Fresco, qui est en gros l'application de peinture et de dessin vectoriel au stylet d'Adobe sur les tablettes, quoi. J'ai d'ailleurs interrogé des petits graphistes autour de moi qui n'aiment pas du tout cette application de ce qu'ils en ont testé, mais c'est un autre débat. Guillaume, pareil, rafraîchissement de gamme, est-ce qu'il y a des choses parfaitement notables qu'on pourrait souligner en plus pour la Surface Pro 7?
Bah écoute, pas plus que ça, sauf le passage au plus de 10e génération d'Intel, hein, donc voilà, ce genre de truc, on a de l'USB-C aussi, ça je crois que c'est nouveau, c'est vrai que bon bah oui, on peut pas ne pas penser à l'iPad Pro. Cela dit, moi pour le coup je pense que c'est plus la Surface Pro X en fait qui est en face de l'iPad Pro.
T'as raison, c'est vrai.
Plutôt que la Surface Pro qui est plus un PC pour moi, mais après c'est peut-être aussi, une personnelle comme appréciation.
Bah en fait, clairement la Surface Pro 7 c'est juste une évolution mineure, d'ailleurs ils l'ont à peine présenté dans la conférence, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel ils se sont attardés.
C'était rafraîchi.
Si on remet les choses dans l'ordre, c'est l'iPad Pro qui ressemble à la Surface Pro.
Oui, c'est vrai. Puisqu'en termes d'approche, tablette, clavier, etc., effectivement, la Surface était là avant.
C'est l'iPad Pro qui a vu la réponse. Enfin, surtout l'usage stylet, je pense. Le côté tablette PC plus tablette clavier plus stylet qui a vraiment poussé Apple après à créer l'iPad Pro avec le Pencil. Et ce qui est marrant, c'est que la Surface Pro X, dont on va parler dans quelques secondes, c'est pour le coup, moi je trouve que c'est une réponse à l'iPad Pro en fait. C'est vraiment. On a bouclé la boucle quoi. La Surface Pro X, c'est une réponse à l'iPad Pro qui était une réponse à la Surface Pro quoi.
Bon, justement, on enchaîne. Alors, Kassim, dis-nous la Surface Pro X. Je disais des bêtises, hein, Fresco, ça a été bien présenté sur la Surface Pro X. Au passage, le dessin était vraiment dégueulasse de la part de la graphiste. Mais bon, c'est pas facile, peut-être sur scène, elle avait la pression. Surface Pro X, donc c'est la version pro, on va dire, de la Surface Pro. Je ne savais plus comment les appeler, Kassim.
Ouais, c'est un peu compliqué. Là. D'ailleurs, le nom est un peu. Enfin, rend un peu les choses confus avec un autre truc dont ils vont parler, qu'ils ont présenté plus tard, mais bon. C'était un peu curieux le choix de l'appeler X. En plus, on se demande un peu la prochaine comment ils vont pouvoir l'appeler. C'est un peu étrange.
X plus.
Et ce qui est encore plus étrange, c'est que la Surface Pro 7, tu l'as dit, elle est à 920€ à peu près. Elle sortira le 22 octobre. Et la Surface Pro X, elle sort en novembre à 1100€. Donc, on est sur quelque chose de très équivalent, quoi, à 100€ près, 200€ près. Donc on est sur quelque chose de très proche et sur un produit qui est finalement aussi lui assez proche, c'est-à-dire que c'est vraiment la tablette avec laquelle tu glisses un clavier et à laquelle tu peux aussi utiliser un stylet. Donc on est vraiment sur quelque chose de proche philosophiquement, et pourtant la Surface Pro X c'est celle qui a un écran borderless complètement à jour, qui a deux ports USB, deux ports USB type C, et là on oublie complètement l'USB type A classique.
Oui.
Et là c'est peut-être le plus intéressant pour cette tablette, intègre un processeur, alors Microsoft SQ1, et je suis sûr que Guillaume va encore pouvoir nous présenter ça. Alors là c'est un petit peu plus customisé, j'ai l'impression, mais quand même pas tout à fait, hein.
Pas tant que ça. Bah tu sais, c'est le SQ1, c'est en fait un Snapdragon 8cx, ouais, à 7 nanomètres, et on est très très proche de 8cx standard quoi, hein. On a donc un octa-core avec des cœurs cryo qui sont poussés à 3 GHz. Donc je pense que c'est vraiment encore deux clusters. Hein. Donc on a un cluster puissant, un cluster moins puissant qui consomme beaucoup moins. Donc on monte à 3 GHz, ce qui est quand même vraiment impressionnant. Enfin, ce qui est assez haut, mais ça c'est très probablement parce qu'on a un gros châssis, qu'on a une dissipation thermique, on a plus de latitude en termes de dissipation thermique. Donc très probablement, on peut monter un petit peu plus haut. Ça peut monter jusqu'à 15 watts, le TDP, c'est 15 watts de ces trucs-là. Et surtout, on a beaucoup, j'ai l'impression, boosté les performances de GPU, donc les performances de la carte graphique, puisqu'on atteint les 2,1 teraflops. Alors 2,1 teraflops, c'est absolument énorme dans le monde ARM, quand même. Il faut donc se souvenir que le Ryzen boosté de la surface laptop, c'était 1,2 teraflops. Donc on est presque deux fois plus gros, alors qu'on est sur un GPU ARM qui est normalement plus à l'aise, enfin qui trouve plus sa place dans un gros téléphone mobile, quoi. Donc du coup, c'est quand même une puce qui est assez customisée, mais là encore, c'est surtout, on va dire, les fréquences et la puissance, le nombre d'unités graphiques qu'on va utiliser. Alors, pourquoi autant de performance GPU ? Très honnêtement, c'est pas complètement clair, puisque hormis, si tu veux, manipuler plusieurs écrans 4K, et évidemment, l'interface, et probablement aussi l'accélération d'OpenCL et ce genre de trucs, bon, c'est vrai que c'est pas clair, puisqu'on sait que c'est du ARM, donc c'est le retour de Windows on Snapdragon, hein. Avec tous les problèmes que ça peut, enfin tous les avantages et tous les inconvénients, disons, hein, que ça peut amener, et en particulier un des gros inconvénients, c'est que ça supporte pas OpenGL comme il faut, que c'est pas vraiment une machine de jeu. C'est vrai que 2,1 teraflop, c'est un petit peu étonnant. Alors bon, tu avais testé, toi, Kassim, déjà du Windows on ARM, c'était pas très concluant à l'époque. Est-ce que là, à ton avis, ça va être vraiment différent?
Alors, je mets vraiment un gros point d'interrogation. Alors, les deux précédentes générations de PC ARM, c'était tout pourri. Hein. En fait, là où tu gagnais vraiment, pour moi, il y avait deux gros points forts. Le premier, c'était la 4G intégrée de façon vraiment native et ça change quelque part l'usage quand même de vraiment pas avoir de problème de Wi-Fi et de pouvoir et même pas avoir besoin d'activer le mode modem. C'est bête, mais ça fait vraiment changer les usages d'un PC portable, en tout cas j'avais trouvé. Et l'autre point, c'est le réveil instantané, c'est-à-dire que tu as vraiment une veille comme ce qu'on connaît sur un smartphone ou sur un iPad par exemple. Vous le mettez en veille, l'écran s'éteint, c'est instantané, vous le sortez de veille, c'est tout aussi rapide. Il n'y a pas besoin de repasser par un écran de chargement ou quoi que ce soit. Quelque chose que Intel n'arrive pas encore vraiment à faire à ce niveau-là.
Pas du tout, même.
Et du coup, c'est vraiment un avantage de ARM. Le désavantage, c'était vraiment sur le plan effectivement des performances et sur cette couche d'émulation que Microsoft est obligé d'intégrer, qui permet de lire des applications faites pensées pour Intel côté ARM. Sachant que ça limite en plus, c'est que les applications 32 bits qui sont compatibles et pas les applications 64 bits alors qu'elles sont en train de devenir majoritaires. Donc ça, c'est un autre problème. Vraiment, le problème que j'avais rencontré, c'était les performances, et il faut quand même avouer que là, il y a l'air d'avoir un gros gap sur les performances annoncées entre cette nouvelle génération de puces, que ce soit le Snapdragon 8CX dont tu parlais, ou là, la Surface Pro X, le processeur de Microsoft intégré. Dans les deux cas, on a vraiment un gap annoncé de performance, et donc je mets vraiment un gros point d'interrogation. Je serais vraiment pas capable de dire si ça va suffire à résoudre les problèmes. J'ai bon espoir que si Microsoft avait zappé les deux précédentes générations et elle s'y met avec celle-là, c'est peut-être que le produit est assez mature en termes de performance pour avoir quelque chose d'agréable à utiliser. Tu parlais des performances graphiques.
Moi, j'en doute pas. Hein, de toute façon, que ce soit. En fait, je pense que c'est clair et net que ça a les bonnes performances en natif. Avec des binaires natifs, avec des programmes qui sont compilés pour, tu vois. Donc, par exemple, si Chrome est compilé pour, ou si Edge est compilé pour, à mon avis, ça va très bien se passer. La grosse question, c'est, dans la vie de tous les jours, si tu utilises d'autres logiciels qui vont être émulés, comment ça va se passer? Là, par contre, c'est beaucoup moins clair.
Sur la puissance graphique, pour donner une comparaison, le nombre de teraflops qu'ils ont annoncé, je ne l'ai plus en tête.
Tu me l'as, 2,1. Tu l'as dit.
Voilà, 2,1, c'est un peu au-dessus de la Xbox One S, et du coup, ça permet d'avoir une comparaison parce que la Xbox One S, c'est 1,4, si je me souviens bien, ou 1,8, je ne sais plus, j'ai un doute. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, donc c'est plus puissant que la Xbox One S, et c'est donc équivalent avec l'iPad Pro. Parce que si vous vous souvenez, Apple avait justement fait sa comparaison avec la Xbox One de son iPad Pro avec Apple A12 Bionic. Donc, euh, Donc ça permet d'avoir l'élément de comparaison commun, permet de dire qu'en fait ça va être les performances à peu près de l'iPad Pro. En performance pure, comme tu disais, à voir avec la couche d'émulation ce que ça donnera. Mais ça sera intéressant en tout cas à tester, on a hâte de tester. Ça arrivera un peu plus tard par contre, le produit il arrive en novembre.
Ouais, il arrivera en novembre, donc il faudra attendre un petit peu pour avoir des tests, mais je suis convaincu que plein de monde va se ruer dessus. Juste pour conclure sur les tablettes Surface, classique, vers quel appareil faut se tourner selon vous si on veut absolument une tablette Surface en fonction des usages? Est-ce que spontanément, si je veux faire du jeu, je vais aller pouvoir...
si tu veux faire du jeu, tu vas pas sur une tablette.
Ouais, bon, d'accord. Ok, bon, allez, question suivante. Non, mais sur la production graphique, par exemple, pour un graphiste qui a aujourd'hui besoin... Je sais, par exemple, que l'univers des graphistes, il est envahi aujourd'hui par les iPad Pro parce que stylé, parce que les apps sont géniales, parce que c'est un peu une continuité de Mac et parce que beaucoup de graphistes apprécie le rendu du pencil. Est-ce que finalement, pour la production graphique, la Surface Pro 7 peut pas suffire pour énormément de cas, on est d'accord.
Mais c'est surtout c'est les logiciels, parce que comme je disais, si tu veux, les logiciels que tu utilises sont déterminants, vu qu'ils vont être émulés sur la Surface Pro X, ils ont une chance d'être dégradés ou de fonctionner pas tout à fait correctement, alors que sur la Surface Pro 7, tu es sûr qu'ils vont fonctionner. Donc je pense que si tu as un ensemble de logiciels, enfin de production, et que tu les maîtrises bien et qu'ils sont sur PC, la question ne se pose pas vraiment. Surface Pro X, elle est orientée, d'ailleurs, c'est eux qui le disent, hein, vers les future workloads, c'est-à-dire vers, on va dire, vers les applications qui sont complètement web, tu vois, qui sont moins orientées vers le natif, vers les applications qui doivent être compilées explicitement pour la machine. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, enfin, ils disaient que le GPU était boosté à ce point, parce que ça devenait une source, en fait, de consommation, même à travers les sites web et à travers les applis web, et que du coup, ils voulaient être prêts pour ce genre de future workload, comme ils disent. Donc, moi, je pense que si tu es un graphiste, il y a peu de chances, à moins que Adobe, par exemple, je sais pas, porte sa suite sur ARM de manière native. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de chances que tu choisisses une Surface Pro X, mais bon, ça peut changer. Hein.
Dans les médias, ouais, ce qui est sûr, c'est que la Surface Pro 7, donc du coup, c'est la valeur sûre. Enfin, c'est comme son numéro l'indique, c'est la 7e génération. Et là, pour le coup, le produit, il est assez bien fini. Il est, enfin. J'ai très peu de doutes sur la qualité du produit à l'avance. C'est quelque chose qui est rodé. Et d'ailleurs, ils n'ont pas changé le design, donc ça montre bien que là, ça, voilà, c'est quelque chose on connaît, quoi. On sait dans quoi on marche. La Surface Pro X, faudra vraiment attendre les tests, quoi.
Alors, on voit souvent dans les environnements urbains maintenant, de plus en plus, je trouve, des possesseurs d'AirPods qui se baladent avec leurs petites oreillettes et les petites bidouilles qui pendent. Eh bien, peut-être qu'on va voir arriver d'autres sortes d'oreillettes, et notamment celles qui ont été présentées par Microsoft. Alors, on ne déroge pas à la règle, ça s'appelle aussi des surfaces, mais cette fois-ci, c'est les surfaces Earbuds. Donc, ce sont, on va dire, des AirPods à la surface, donc des écouteurs dits vraiment sans filtre ou wireless, et avec un petit boîtier dans lequel vous les rangez, où ça recharge, et où vous bénéficiez d'une qualité de son plutôt pas mal, mais surtout des micros aussi qui permettent d'avoir une réduction de bruit actif. Donc c'est là aussi où on a eu des démonstrations d'instructions, par exemple pour des présentations PowerPoint, où on pourrait interagir de manière assez fluide. 24 heures d'autonomie au total, et donc surtout sur le design, cette surface ronde qui dépasse du trou de l'oreille, qui est plus gros que l'oreillette. Alors, si je voulais troller, je dirais que ça ressemble à une micro-ponceuse pour Playmobil, mais je ne ferai évidemment pas cet affront-là. Sur le design, c'est en tout cas discutable. Je pense que ça va. Il y a des gens qui vont adorer.
Discutablement moche.
Non, mais c'est moche, mais les AirPods, c'est pas super non plus, honnêtement.
Non, mais les AirPods, à la limite, au départ, t'as l'air ridicule
la
quand t'es le premier.
Là, comme ça.
Voilà, ouais, mais comme il y a plein de gens qui ont la petite queue qui pendent leur oreille d'AirPod, à la limite, tu te sens ridicule parmi les ridicules. Mais là, je suis pas certain qu'il y ait un engouement de dingue. Mais vraiment, le design me paraît, moi, personnellement, rédhibitoire, même s'il y a des personnes qui m'ont dit sur Twitter qu'ils aimaient bien, et c'est très bien. En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est le fait que cette surface, à défaut d'être élégante et passe-partout, va probablement être pratique. Et je pense qu'effectivement, on va pouvoir s'imaginer avoir des gestes qui sont plutôt pratiques sur ces petites surfaces. Guillaume, je te demande même pas si ce sujet t'intéresse, parce que je pense que le jour où je te verrai avec des écouteurs sans fil,
mais les poules rôdent dedans.
Oui, non, mais pardon, mais des petits écouteurs comme ça avec des petites batteries qui vont se vider au bout d'un an comme les AirPods, je pense que c'est pas de mal à veille si je dis pas de bêtises.
Oui, bah non, mais alors c'est vrai qu'au niveau du design, c'est pas terrible, terrible, mais enfin bon, c'est, on en est plus là quoi. Par contre, la réduction de bruit active, franchement, c'est plutôt une fonction assez sympa qui manque très probablement aux AirPods. C'est peut-être aussi parce que le design qui est pas complètement intra-auriculaire des AirPods, et peut-être un petit peu plus... enfin, ça couvre peut-être... Il y a peut-être une réduction de bruit passive un petit peu meilleure. Ça couvre peut-être un petit peu mieux les bruits environnants. Et du coup, ils peuvent se permettre de faire une réduction de bruit active. Je sais pas. C'est peut-être aussi à cause de ça qu'on a cette espèce de gros truc rond. Je sais pas savoir.
Bah, c'est marrant parce que je trouvais que justement, le petit boîtier de l'écouteur qui rentre dans l'oreille, qui rentre dans le trou de l'oreille, me semblait vraiment assez proche de ce qu'on a aujourd'hui avec les AirPods. Donc, bon, je sais pas. Il faudrait vraiment comparer les deux. Bon, Kassim, est-ce que tu as envie de t'attarder sur ce sujet des oreillettes? Le non. Design te plaît-il ou pas?
Non, déjà, il me plaît pas. Pas spécialement. En plus, je suis pas du tout convaincu par le tactile parce que ça existe aussi sur les casques Bluetooth, sur certains casques Bluetooth. Et je trouve pas ça très pratique à utiliser. Donc, je suis pas convaincu ni par le design esthétique, ni par le design pratique de la chose. Donc.
Alors à ce compte-là, on va passer plutôt au clou du spectacle. Et donc là, on arrive à la phase Microsoft. Waouh ! Où on se dit, bon, c'est de l'ordre du concept qu'on verra dans quelques années. Et bon, oui, c'est vrai que c'est pas pour tout de suite, mais ils l'annoncent quand même, ces produits-là, pour la fin de l'année 2020, donc dans un an, hein, en gros. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la Surface Neo dans un premier temps. C'est une tablette pliante, mais l'écran n'est pas pliant, mais c'est vraiment deux écrans côte à côte dont la charnière est relativement fine. Vous pouvez refermer l'appareil et le rouvrir, évidemment. Il fonctionne quel que soit l'angle d'ouverture. Je fais référence à ce que tu disais tout à l'heure, Kassim, par rapport au Samsung Galaxy Fold. Et vraiment, d'extérieur, et quand on voit la vidéo, on se dit tous, enfin, je sais pas si vous avez été comme moi, mais waouh, c'est vraiment un produit magnifique, très futuriste. Donc, la pliure se met vraiment à plat. Le produit est très fin. Il est très beau, les écrans ont l'air incroyables, et surtout, c'est là où ça fait une vraie différence avec les écrans de smartphones pliants qu'on a décrits avant, c'est qu'il n'y a pas cette volonté d'avoir un écran extérieur qui s'éteindrait, qui laisserait place à un écran intérieur plus grand. C'est vraiment le parti pris de dire, vous avez un appareil dont les deux écrans sont utilisables, mais le reste, c'est juste la couverture de l'appareil. Vous pouvez d'ailleurs replier les deux écrans dos à dos pour en faire une petite tente. Hein. Donc, on pourrait poser la tablette, comme on le voit aujourd'hui avec certaines tablettes et leurs claviers, pour faire d'un côté la présentation PowerPoint, de l'autre côté les notes. Moi, je trouve ça vraiment très convaincant en termes d'usage. Mais c'est le cas de tout ce qu'ils ont présenté. Tous les usages paraissent crédibles. Et c'est la première fois où je vois un constructeur ces derniers temps proposer un produit qui... Un, est sexy, parce qu'il faut avouer que les écrans pliants, les Galaxy Fold et compagnie, c'est sexy, mais qui est aussi très convaincant sur les usages, puisque très vite, on s'imagine pouvoir avoir ce même usage qu'ont plein d'utilisateurs d'ordinateurs avec des doubles écrans. Il y a plein d'utilisateurs qui ont deux écrans de PC et qui ont cette possibilité de comparer d'un côté un navigateur web, de l'autre côté un tableur, ou face à face, les mails, les news qui arrivent sur des flux RSS. En plus, la possibilité de diviser plusieurs fenêtres sur chaque écran. Bref, la possibilité de faire cohabiter différents environnements d'applications qui sont complémentaires. Et c'est un petit peu ce qu'on aime bien aussi assez vite sur un iPad Pro ou même sur Windows de manière générale, c'est quand on divise l'écran en deux. Là, les choses paraissent extrêmement naturelles et ça, c'est en tout cas une promesse qui paraît convaincante sur le plan des usages et surtout une modularité incroyable puisqu'il faut y imaginer également donc le petit stylet qui peut se clipser magnétique sur la tablette et un petit clavier physique. Et ce petit clavier physique, selon comment vous le mettez sur un des deux écrans quand vous mettez l'appareil ouvert en mode ordinateur, peut servir alors soit de maxi touch bar, soit de trackpad. Enfin bref, il y a un éventail de possibilités d'usage qui paraissent assez dingue. Tout ça tourne, pour la petite anecdote, sur Windows 10X qui est bâti sur le même socle que Windows 10, mais qui n'est pas Windows 10 exactement. C'est vraiment une version qui est prévue pour ce type de produit, qui est d'ailleurs, au-delà d'un concept qui va sortir, qui est aussi le fer de lance d'une nouvelle gamme de tablettes, puisque d'autres constructeurs sont en train de développer des produits avec Windows 10X. Il y a Dell notamment, je ne sais plus qui d'autre, mais en tout cas les grands constructeurs de PC qu'on connaît sont en train de s'y mettre. Et là, vraiment, sur le cul de voir ce produit. Kassim, c'est là où tu as eu l'effet waouh, je pense.
Ouais, alors en,
le premier.
D'autant plus que c'est le genre de produit qui est un peu fait pour les journalistes. On va pas se le cacher parce que c'est ultra, enfin c'est littéralement un PC portable vraiment vraiment très compact que tu peux emporter partout et pour typique. Enfin nous on a vu un usage tout de suite. Alors je suivais la conférence avec Maxime et Ulrich pour Fondroid et on a vu tout de suite un usage c'est en conférence quand tu es en train de suivre une conférence quand t'es dans la salle elle-même. Et que tu as souvent besoin justement de faire du multi-écran. Enfin, tu aurais bien besoin de faire du multi-écran entre ton flux Twitter que tu essayes de mettre à jour, les photos que tu veux prendre et les notes que tu es en train de prendre, enfin plusieurs éléments. Là, tout se mettrait un peu en harmonie assez naturellement avec ce genre de produit. Et si tu as besoin de taper du texte après pour un article, bah, tu peux le faire avec le clavier magnétique. Donc, enfin, on voit tout à fait en tout cas les usages qui peuvent se mettre en place sur ce type de produit. Donc c'était vraiment intéressant, vraiment encore plus je trouve ce côté au-delà des deux écrans, ce côté du clavier vraiment parfaitement pris en charge par l'OS. On voit selon où tu places le clavier sur l'écran, soit il y a une sorte de touch bar géante d'Apple qui apparaît si tu mets le clavier vers le bas, et si tu mets le clavier vers le haut c'est un trackpad qui apparaît. Enfin c'est vraiment très intéressant. Alors moi, forcément, en tant que journaliste un peu axé Microsoft, je suis aussi très intéressé pour en savoir plus sur Windows 10X, donc cette nouvelle version de Windows 10, qui a priori en fait ferait enfin table rase du passé et qui semble en fait être une version de Windows 10 complètement basée sur les nouveaux éléments de système que Microsoft en fait a mis en place, mise à jour après mise à jour depuis la sortie de Windows 10 en 2015 maintenant. Donc ils ont commencé à retravailler certains éléments du bureau qui se voyaient pas forcément pour l'utilisateur final, mais qui permet en fait d'avoir un Windows 10 aujourd'hui qui est complètement modulaire. Et ce Windows 10X en fait il en tire parti complètement puisque c'est par exemple un nouveau bureau qui est proposé en interface et les applications classiques parce que on va en parler, c'est un processeur Intel à l'intérieur, les applications classiques Win32 cette fois il y aura pas de couche d'émulation mais il y aura un système de containers qui est un élément un peu technique que si vous connaissez Docker par exemple, vous voyez de quoi on parle, c'est-à-dire que c'est la possibilité en fait de faire tourner des applications sans émulation, juste en leur faisant télécharger en plus de l'application les éléments de Windows dont ils avaient besoin, quoi, en gros. Et ça fait que chaque application est dans sa bulle et ça permet à Microsoft d'avoir un contrôle total sur et à Windows en particulier d'avoir un contrôle total sur les applications qui tournent. Et donc c'est-à-dire que même un logiciel type Chrome ou Steam qui n'ont pas du tout été pensés pour ce type d'appareil ou qui n'ont pas du tout été redéveloppés spécifiquement pour des PC portables basse consommation, bah Windows peut gérer la consommation en arrière-plan, peut éventuellement couper l'application, peut avoir le même type de contrôle qu'ont aujourd'hui iOS et Android sur les applications de leur boutique respective, quoi.
Le truc qui marque, hein, vraiment, je trouve, dans ce produit-là, c'est le fait qu'il y ait cette promesse d'avoir vraiment l'écran pliant, mais avec une fine séparation entre les deux, et cette charnière, je trouve, qui fonctionne à 180 degrés. Oui.
Bah juste rapidement sur le fait que, alors déjà, il y a quand même des marges autour de l'écran, quand même, faut le dire,
oui.
qui mettent un peu en arrière le design du produit, mais on sent qu'elles sont là quelque part pour effectivement héberger cette charnière et le produit a déjà été pris en main par certains journalistes et notamment par Marcus Brownlee, MKBHD sur YouTube, qui a pu visiter un peu les bureaux de Microsoft et il explique que la charnière par exemple est vraiment très solide et permet en fait de ce que je disais tout à l'heure que ne pouvait pas faire le Galaxy Fold, de le tenir dans toutes les positions et surtout elle est à la fois assez solide pour pas flotter si par exemple tu ne tiens qu'un seul écran et en même temps suffisamment souple pour que tu puisses la tourner facilement dans à peu près les positions que tu veux. Et là je trouve on voit une illustration du savoir-faire en fait des ingénieurs de cette équipe parce que enfin les charnières en fait t'en as dans la Surface Pro, t'en as dans le premier Surface Book, enfin dans le Surface Studio, ils en ont vraiment dans chacun de leurs produits et on sent que toute leur expérience est un peu allée dans la conception de ces nouveaux produits-là. Et je trouve ça assez intéressant. Et tu parlais de mêler usage hardware et usage logiciel. Et je trouve qu'il n'y a que trois entreprises dans le monde en fait, qui sont vraiment capables de faire ça. C'est Apple, Google et Microsoft en fait, de mêler à ce point-là logiciel et matériel pour l'expérience. Mmh. Tu parlais de présentation de produits convaincants. Pour moi, un Samsung, un Huawei ou un Dell pour prendre un PC, un fabricant de PC par exemple, ou un Asus qui a récemment proposé un deuxième écran sur un de ses PC portables, peuvent pas justement, parce qu'ils n'ont pas la main totale sur le logiciel, peuvent pas proposer ce genre d'expérience et n'ont pas, même pas le savoir-faire, je pense, pour concevoir un vrai produit de bout en bout avec une nouvelle génération de produits dont on sait qu'il aura des successeurs, etc. Enfin, on n'est pas du tout dans cette philosophie-là d'innovation, quoi, en tout cas.
Guillaume, quand tu as vu cette annonce, est-ce que ça a fait un carton plein dans ton petit cœur ?
Ben ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Moi, c'est... Alors moi, c'est marrant parce que ça m'a rappelé une vieille machine qui s'appelle le Libretto W100 de Toshiba.
Oula. Oui, je vais aller regarder ça parce que je
vais voir. Oui, ben oui, vous pouvez
la Xperia
W100
aussi.
Aussi, tout à fait, oui, il y avait l'Xperia à double écran. Alors, le Libretto, c'était une machine Windows et qui avait un petit peu la même promesse à l'époque. Alors à l'époque, c'était il y a 10 ans quand même, hein, c'est 2010. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que ça a fait un flop intégral. Alors c'était évidemment assez cher, ça pesait 700 grammes et ça faisait fonctionner Windows 7 pendant 2 heures. Ce qui peut être étranger au problème d'ailleurs qu'a eu ce petit Libretto. Mais en fait, moi je l'avais vu passer il y a toutes ces années, et j'avais trouvé ça intéressant comme concept et plutôt sexy. Puis il faisait des écrans de 7 pouces, donc c'était assez petit, c'était assez mignon. Il n'y avait pas de stylet par contre. Cela dit, clairement, la technologie n'était pas mature, hein, tout simplement pour donner vie à ce genre de petits trucs. Là, on est vraiment en face d'un truc qui est vraiment, enfin, d'un appareil qui est très sexy, qui ressemble vraiment à un calepin. C'est vraiment un bloc-notes, hein, avec même le petit stylet qui est collé dessus. C'est vraiment un bloc-notes qu'on ouvre comme ça de manière très naturelle. Et là, évidemment, on a tout le savoir-faire de 10 ans d'évolution technologique, avec des écrans qui sont incomparablement plus beaux, incomparablement plus grands, une charnière qui est assez fine quand même, et bien une modularité qui est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Donc ouais, c'est très intéressant parce que du coup, on a l'impression vraiment de voir le futur des ordinateurs portables en fait. Ça y est, on a l'impression cette fois, que ce soit avec le Fold ou avec ce genre de machine, on a l'impression d'avoir, une étape dans les générations d'appareils et qu'après, des années à maturer comme ça, on a quelque chose de nouveau qui arrive et on va avoir de nouveaux usages, de nouvelles possibilités. Donc c'est vraiment, vraiment super excitant. Et du coup, oui, moi, ça m'intéresse beaucoup, ce genre de petite machine. C'est vraiment, vraiment très, très cool. Ouais.
Est-ce que tu avais suivi l'annonce de... Parce que du coup, ça tourne sur une plateforme Atom Lakefield. Et je ne sais pas si tu avais vu cette annonce en janvier. Enfin, c'était à l'époque, c'était au CES. Je ne sais pas si tu avais vu l'annonce du processeur. C'était assez intéressant.
Non, ça ne me dit rien. Attends, c'était quoi ?
En fait, à l'époque, c'était au moment où Intel présentait sa 10e génération plus large de processeurs. Et ils avaient glissé l'annonce de ce Lakefield, et en fait, on savait juste que c'était développé pour un fabricant mystère, en fait. C'est-à-dire que ça.
Ah oui, ça n'allait pas être disponible dans le Core BIOS, quoi.
C'est ça, c'est qu'en fait, Intel avait développé le processeur, en gros. Ils avaient le savoir-faire technologique, mais ils n'avaient pas l'usage, ils n'en avaient pas. Ils ne voyaient pas de clients potentiels, ils n'en avaient pas l'usage, et en fait, c'est un fabricant, donc maintenant on sait que c'est Microsoft, qui est allé les voir et qui allait. Leur demander, on veut un processeur Intel qui consomme, le cahier des charges, c'est une puce qui consomme moins de 2 milliwatts en veille. Donc, donc quelque chose de vraiment...
Tu vois, pour le coup, ça m'étonne presque qu'ils aient pas opté pour une plateforme ARM. C'est vraiment... Là, ça aurait été complètement... Tu vois, enfin, vu le form factor,
c'est intéressant,
ce qui est tablette...
C'est effectivement, ça aurait été logique, mais je pense que c'est vrai, ils tenaient à cette compatibilité totale... De Windows, quoi, en fait, derrière. Je saurais pas t'expliquer pourquoi aujourd'hui, mais visiblement, ils y tenaient, ils voulaient vraiment pas qu'il y ait de problème de cette application, elle est pas compatible, quoi.
Après, c'est probablement le développement de Windows 10X, puisque c'est une version Intel. Et apparemment, il n'y a pas de 10X on ARM pour le moment.
Non, ouais, donc, clairement, non.
Ça ne doit pas être aussi évident que ça de containeriser toutes les applications plus anciennes, etc., etc. Donc je pense que ça va être pour ça. Enfin, en tous les cas, oui, c'est une machine qui est vraiment très, très sexy, hein, et qui pourra encore évoluer puisque c'est fin d'année prochaine, c'est fin 2020. Donc peut-être que d'ici là, elle aura encore évolué. Et bon, si LG avait pris... on va parler après de l'autre, de la dernière annonce, mais bon, c'est vrai qu'LG avait peut-être un peu montré le chemin avec sa coque de deuxième écran. Mais le Galaxy Fold, par exemple, c'est aussi dans cette mouvance, si tu veux, de double écran, d'augmenter les fonctionnalités, d'augmenter la surface. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Microsoft n'essaye même pas de faire de l'écran pliable. ils optent pour une technologie qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus éprouvée. Et du coup, bah, effectivement, ça donne confiance. Ça a l'air solide. Ça a l'air d'être un truc que tu peux utiliser au quotidien. Et tu vois, il n'y a pas ces problèmes de pliure au milieu, etc. etc. Et finalement, c'est peut-être intelligent de ne pas encore opter pour des écrans pliables et d'attendre encore un petit peu que ça soit plus mature.
Ouais, finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin que ce soit un seul écran qui plie ? Alors, c'est le top du côté de l'élégance. Mais en termes de pragmatisme et d'usage, je trouve que simplement de faire une séparation très fine entre deux écrans, c'est une très belle promesse. Alors oui, ça exclut par exemple de voir une vidéo qui prenne les deux écrans, mais quoique le form factor n'est pas hyper approprié, mais ça gêne pas du tout de s'imaginer par contre regarder la vidéo sur un des deux écrans, de le replier. Vraiment appareil hyper sexy qui a surpris tout le monde. Et alors on se disait que c'était terminé, évidemment il y a eu l'équivalent d'un One More Thing, et donc Panos Panay est revenu, grande surprise. Compléter cette gamme, alors on l'a pas dit hein, mais c'est le Surface donc Neo, et ils ont annoncé aussi ni plus ni moins que le Surface Duo, qui est finalement exactement la même chose que ce qu'on vient de vous dire, donc le même produit mais en plus petit, pas forcément le clavier et le stylo, mais une différence énorme c'est que Microsoft a annoncé ce Surface Duo qui tournerait sous Android, donc avec un Play Store en bonne et due forme, recustomisé au niveau de l'interface pour que ça donne une expérience graphique Surface, comme les autres constructeurs savent le faire pour se réapproprier Android. Mais en tout cas, Microsoft a signé un partenariat avec Google. Alors là, on n'en pouvait plus. Je pense que c'était le clou du spectacle de s'imaginer que, après tant de temps, après Windows Phone, après Lumia, après tout ce passé de la construction de smartphones chez Microsoft, il y allait y avoir déjà un smartphone Microsoft pliant, mais qui en plus allait tourner sur Android, ce qui évacue de facto une problématique qui se dirait il n'y aura pas les apps qu'on attend sur un smartphone, forcément elles seront là puisque c'est Android. Bon, ça nous a tous laissé sur le cul, j'imagine, Cassim, de votre côté aussi ?
Oui, totalement. Alors, ce qui était marrant, c'est que l'annonce s'est faite un peu en trois temps. Enfin, la surprise s'est faite en trois temps. Il y a eu d'abord, donc, effectivement, Panos Panay qui revenait sur scène pour dire « Il y a un truc qui a échappé aux fuites, vous allez voir ce que vous allez voir ». Après, il lance la vidéo. On voit le produit sortir, la dame sort le produit de sa poche et il y a un appel téléphonique. Donc, on comprend tout de suite que c'est un smartphone. Donc, ça, c'est la deuxième surprise. C'est Microsoft qui revient sur le marché des smartphones. Et le temps que tu comprennes ça, tu aperçois le Play Store sur l'interface et tu comprends tout de suite que c'est un smartphone sous Android et pas n'importe quel Android, l'Android de Google avec toute la suite d'applications et de services. On voit Google Maps, on voit YouTube. Et c'est vraiment trois surprises d'affilée, en fait, finalement, qui créaient cet effet un peu waouh à l'annonce, en plus, du design et du produit en lui-même, hein, mais c'est vraiment intéressant. C'est une annonce que moi je suivais depuis, t'en parlais un peu tout à l'heure, depuis fin 2016, début 2017 quand même, donc il y a 2 ans, où on entendait parler de Microsoft qui travaillait toujours, malgré la fin des Lumia et de Windows Mobile, sur un smartphone qui devait tourner sous Windows 10 à l'époque. Et on en entendait parler, c'était le projet Andromeda. Et ce projet, il a continué. Et en fait, pendant l'année, je dirais jusqu'à la fin, à partir de la fin 2018, d'un coup, en fait, il y a eu une scission chez les journalistes. Il y en a qui entendaient que Andromeda continuait d'être élaboré et d'autres qui entendaient que Microsoft avait abandonné. Et au même moment, on commençait à entendre parler de Centaurus, qui était un produit basé sur les mêmes technologies, mais plus grand, ce qui deviendra le Surface Neo dont on vient de parler, le PC sous Windows 10. Et en fait, cette scission, dans ce qu'on entendait, en fait, elle venait tout simplement du fait que on estime que c'est à partir de ce moment-là où Microsoft a abandonné l'idée de faire un smartphone sous Windows, a réutilisé son idée de design et l'a passé sous Android, en fait. Et c'est à partir de là, en fait, que Surface Duo, donc ce nouveau produit, a vraiment commencé sa phase de conception finale. Mais c'est vraiment un projet qui remonte à longtemps. On peut retracer jusqu'à Courrier quasiment, jusqu'à Projet Courrier, l'idée de ce produit. Et donc c'est vraiment un produit sur lequel Microsoft a travaillé longtemps et qu'il ne voulait pas annoncer et qui le tant qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir quelque chose de bon. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que ils n'auraient pas eu peur, je pense, d'annuler le projet en interne si ils n'avaient pas été sûrs d'eux, en fait, parce que par exemple, allez, ça remonte à un petit moment, mais il faut savoir que quelques jours avant la présentation de la Surface Pro 3 à l'époque, Satya Nadella et Microsoft ont annulé vraiment à 3 jours de la présentation la sortie d'une Surface Mini à l'époque, donc qui a été produite à plusieurs exemplaires, enfin qui aurait dû être annoncée, qui aurait dû être passée aux journalistes, etc., et qui a jamais vu le jour et qui a juste été annulée, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que Satya Nadella a pas peur de faire. Et donc c'est vraiment ça qui a été surprenant avec cette annonce, c'est que finalement on pensait, beaucoup pensaient que le projet avait définitivement abandonné et que Microsoft avait définitivement abandonné les smartphones. Et bon, bah, faut croire que non, et faut croire qu'ils se relancent dedans. Et Microsoft qui revient sur le marché des smartphones, ça pose immédiatement, moi ça me pose plein de questions, et en particulier avec Android, quoi. C'est quid des mises à jour d'Android, des mises à jour de sécurité, du suivi, de cette nouvelle interface, enfin voilà, beaucoup de questions. Malheureusement, il faudra attendre un an pour avoir les réponses, visiblement. Mais
il y a des choses qui vont être diffusées, j'imagine, d'ici là, volontairement ou non. Mais t'as raison, ça soulève plein de questions. Et il y a aussi ce souvenir un peu amer de certaines présentations très futuristes de Microsoft, alors qui sortent avec des mais tellement énormes que ça donne un peu un arrière-goût délicat.
HoloLens,
je pense notamment, voilà, HoloLens où tout le monde se disait mais c'est le produit du futur, tout le monde en veut un, on veut tous équiper notre foyer de ça, bon ou pas, mais en tout cas ça donnait très très envie, et on s'est rendu compte a posteriori que le champ de vision de réalité augmentée était bien inférieur par rapport à ce qu'on pouvait espérer et par rapport à surtout ce qu'ils avaient promis, et en même temps c'est aussi là qui est quelque chose qui est très intéressant sur la proposition de Microsoft, c'est qu'elle vient de manière très pragmatique à côté de promesses incroyables, d'écran pliant qui ne convainquent pas forcément dans l'usage, donc on ne voit pas trop ce qui pourrait aujourd'hui décevoir des consommateurs qui attendraient ce genre de produit.
J'ai ma petite idée, mais je vais vous laisser...
Alors, on va laisser d'abord Guillaume nous faire part de ce qu'il pense de cette proposition, cette forme d'aveu de faiblesse, mais en même temps de sagesse peut-être de Microsoft de proposer un produit comme ça sur Android. Et puis, tu nous diras quelle est ta réserve, Cassim.
Oui, bah, moi je trouve qu'il est très sexy aussi ce petit téléphone. Après, je sais pas exactement sur l'usage, par exemple, je sais pas, j'ai pas vu de caméra externe, je sais pas exactement comment le tenir peut-être, mais bon, tout ça peut se voir. Non, c'est intéressant effectivement de voir que donc c'est un smartphone assez classique en fait sur ARM qui tourne sur Android. Ça n'a pas été pris forcément très bien par un certain nombre de gens, puisque j'ai vu passer une pétition sur change.org qui veut absolument que, enfin c'est les gens qui signent en tout cas, veulent absolument que le duo fonctionne sur Windows 10 X. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque où Microsoft avait donc fait la promotion de UWP, c'est-à-dire la plateforme universelle Android, c'est Universal Windows Platform, il avait promis que ça allait fonctionner sur tous les facteurs de forme, c'est-à-dire du téléphone jusqu'au gros PC, et là, manifestement, UWP, ce qui est programmé en UWP, si tu veux, les téléphones, c'est con, quoi. Alors, ils disent, c'est débile, vous pourriez mettre Windows 10 X sur votre téléphone, émuler une couche Android, comme ça se fait avec BlueStacks, par exemple, sur PC, et puis, tout simplement, faire tourner les applications UWP et récompenser un petit peu les développeurs qui se sont embêtés à travailler avec. Bon, écoute, je sais pas exactement ce qu'il en sera à terme, je pense pas, puisque de leur aveu même, Microsoft est allé là où sont les utilisateurs et là où il y a les applications, parce qu'ils savent très bien pourquoi Windows Mobile a échoué, et donc oui, je pense que c'est très sage, effectivement, c'est très pragmatique, tout simplement, d'avoir choisi Android, que du reste ils peuvent modifier à loisir, enfin ils peuvent rajouter, donc par exemple, rajouter leur propre interface, et puis ils peuvent aussi rajouter éventuellement des logiciels à eux, des couches de compatibilité à eux, enfin un certain nombre de trucs peut-être qui rendra ce téléphone encore plus, enfin qui fera ressortir encore plus ce téléphone durant que ce qu'il ne fait déjà. Donc oui, à voir, parce que bon, effectivement, dans un an c'est long, il peut y avoir quand même pas mal de changements d'ici là.
Ce qui est marrant, c'est que je suis à titre individuel, hein, vous le savez, très, très fan des produits Apple. Je plonge dans le fanboyisme autant que faire se peut. Et ces derniers temps, je voyais tous les produits qui sortaient, mais vraiment rien ne m'intéressait à proprement parler dans la concurrence. Il y a eu un temps où j'ai apprécié tester d'autres smartphones. Je me rappelle du OnePlus One, de plein de smartphones d'ailleurs qui n'étaient pas forcément Apple. Et ça ne me gênait pas de m'imaginer aller dans d'autres écosystèmes. Mais ces derniers temps, c'était plus compliqué. J'avoue que moi, quand j'ai vu ces produits-là, je me suis dit ouais, franchement, je serais prêt à changer et à aller explorer ces nouveaux produits parce qu'on est dans une promesse à la fois très sérieuse et très novatrice et qui permet de vraiment changer l'expérience. Tu parles de la manière de tenir le smartphone, Guillaume, qui est une interrogation. Alors, sur scène, ça semblait évident que la technologie de charnière dont tu parlais, Kassim, était intégrée à ce smartphone et donc promettait qu'en gros, le smartphone, tu allais pouvoir le tenir comme tu voulais. Mais c'est là où on se rend compte qu'il y a une vraie évolution dans les usages. C'est que vraisemblablement, cet appareil, on peut le tenir de plein de manières différentes, et en tout cas très différentes de ce qu'on fait aujourd'hui, et avoir des usages très différents, contrairement là aussi avec le Samsung Galaxy Fold, où en gros, bah, on a une tablette qui se replie en deux, ou pas du tout, là on a un éventail des possibilités qui est quand même super intéressant. Tu nous teasais une réserve, Kassim.
Oui, alors je voulais juste répondre sur ce que tu viens de dire, c'était sur les... Faut aussi, on l'a pas dit, mais le fait d'intégrer deux écrans et pas un seul écran pliable, ça permet d'avoir des écrans en verre, alors que l'écran pliable Samsung, on le répète pas assez, mais il est en plastique et il est fragile, d'une fragilité assez extrême. Et en fait, au point où du coup, il est incompatible avec l'usage des stylets. Ah oui. Et donc avoir ces deux écrans LCD en verre sur les surfaces, ça permet d'avoir le stylet en fait compatible à chaque fois. Et sur ce que disait Guillaume, je pense effectivement que ce serait intéressant que Microsoft annonce un SDK en plus de Android et un store à lui qui permettrait éventuellement aux applications Windows 10X, spécifiquement pour Windows 10X dans le store UWP et compagnie, d'être porté sur la plateforme Surface Duo, quoi. Tout en ayant le Play Store à côté pour être sûr d'avoir toutes les applications utile pour les utilisateurs, d'autant que Google est déjà en train d'optimiser Android pour les appareils à deux écrans comme le Galaxy Fold et en plus Microsoft a déjà promis, je pense, de participer aux coups de source d'Android comme ils le font désormais avec Chromium, donc ce sera intéressant de suivre les évolutions qu'ils proposeront pour l'OS. Mais sur la réserve, moi, elle est très claire. Là, ils s'attaquent au marché du smartphone et il y a un élément sur le marché du smartphone dont la qualité a décollé au cours des dernières années et dont, à mon avis, il est très difficile de le rattraper la photo sans avoir l'équipe qui va avec. On a vu, je dirais qu'en fait, s'ils étaient lancés avec ce produit il y a 2 ans ou 3 ans, ils auraient pu facilement avoir une caméra. Suffisait d'aller voir le bon capteur, d'aller choper le bon capteur et la bonne optique, et t'avais automatiquement un bon appareil photo dans ton smartphone, quoi. Aujourd'hui, la situation a complètement changé depuis que Google a lancé ses pixels et il y a des équipes, je ne saurais pas te dire de combien, mais de dizaines d'ingénieurs chez Apple, Google et compagnie qui travaillent toute l'année à optimiser les algorithmes de photos. Et je crois qu'on sous-estime énormément à quel point c'est devenu une part essentielle en fait en termes d'investissement dans le design des smartphones. Et malheureusement, s'il y a bien un truc où ils ne sont pas trop expérimentés sur ce sujet, pour le moment, du côté surface, c'est bien les caméras. À voir s'ils peuvent réutiliser, par contre, peut-être leur savoir-faire qu'ils ont eu avec Kinect ou HoloLens, qui, eux, avaient par contre un peu d'avance au moins sur les technologies de reconnaissance 3D et ce genre de choses. Sur la photo, on verra.
Tu sais, quand tu parles de cette réserve qui, effectivement, t'as raison, est essentielle, spontanément, je me rends compte que je pensais Microsoft smartphone, Lumia, super qualité d'appareil photo. Tu vois, mon cerveau faisait un petit peu ce raisonnement et ce raccourci. Ouais. Et effectivement, on n'est plus dans cette époque-là, on n'est plus dans ces possibilités-là du tout, ni sur les ressources matérielles, ni sur les brevets, ni sur les ressources logicielles. Après, j'imagine bien que Microsoft est une entreprise qui a les moyens de se doter dans le temps d'équipes qui peuvent construire des réponses, de là à ce qu'ils puissent aller aussi vite que ça et proposer l'an prochain des possibilité de capter l'image comme le font les concurrents, c'est vrai que ça risque peut-être d'être difficile, sauf s'ils s'associent de manière très étroite avec des partenaires qui ont prouvé leur savoir-faire sur le sujet, peut-être.
Comme Google. s'ils arrivent à convaincre Google de partager leur savoir-faire, ce serait assez incroyable quand même comme accord, hein, mais j'y crois pas trop.
Va savoir. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure cette section Microsoft slash Surface? Guillaume, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, ou est-ce que tu penses tout simplement qu'on a fait le tour, ou une dernière réserve, ou une dernière critique?
Non, on a fait le tour, mais surtout je pense que là on s'excite beaucoup sur des nouveaux produits tout ça, mais en fait je pense que c'est pas du tout un caprice, c'est pas un test. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement global de l'industrie vers le double écran. On le voit parce que il y a des écrans pliants de tous les côtés, il y a Google qui commence à le supporter au sein même de son système d'exploitation, et puis il y a donc ces Surface Duo et Neo qui arrivent, en particulier donc la Neo. Mais c'est pas uniquement Microsoft, comme tu l'as dit, il y a d'autres constructeurs qui vont utiliser Windows 10 X dans des produits similaires, quoi. Donc il y a vraiment un mouvement, et ça c'est vraiment la prochaine génération de PC. Alors évidemment, est-ce que ça va fonctionner ou pas, on ne peut pas vraiment le savoir, mais c'est vraiment vers là que l'industrie s'oriente globalement, quoi.
Kassim, une ultime remarque, critique ou conclusion? C'est vrai que tu as exprimé un petit tweet qui montrait effectivement, et tu le disais tout à l'heure, que c'était un petit peu une forme d'aboutissement par rapport à un travail journalistique initié, on peut le dire, un peu parrainé par Tech Café, on peut faire le petit clin Kassim, mais du coup un petit mot de conclusion peut-être par rapport à tout ça.
Oui, clairement, c'est, j'en parlais avec des collègues américains sur le sujet de le côté. Enfin, on avait tellement l'habitude d'en parler de ce Surface Phone ou Andromeda, enfin, on l'appelait par plusieurs noms, que c'est étrange de se dire qu'on n'en parlera plus comme rumeur à présent. Il va falloir trouver des nouvelles rumeurs à se mettre sous la dent. Donc, ça va être intéressant. Et ce que je voulais dire, c'était que au-delà de la qualité finale qu'aura ou aura pas le produit, et parce qu'effectivement il sortira fin 2020 et que peut-être que Microsoft va complètement se planter, et peut-être qu'ils vont réussir, on sait pas. Au-delà de ça, j'aimerais insister sur la différence entre la sortie du produit et son annonce vraiment. Et on a beaucoup insisté dessus, mais du coup je voulais remettre un accent dessus sur la surprise qu'a été cette annonce. Et je pense que si on est, à mon avis, si on a suivi cette conférence en live ou qu'on l'a vue en replay, et qu'on est soit podcasteur, soit journaliste, et qu'on n'est pas excité au moment de ce one more thing surprenant, je trouve qu'il y a quelque part, il y a un problème. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, c'est rare les one more thing où on est surpris en conférence.
C'est vrai.
Comme on le disait, maintenant les fuites sont nombreuses, et donc quelque part, faut savourer ce genre de moment un peu unique dans la tech où on nous présente quelque chose de complètement nouveau et on se laisse comme ça imaginer des usages, et il y a cette part de rêve un peu que moi j'adore en fait dans les nouvelles technologies, que je retrouve un peu des fois par exemple au changement de génération de console de jeu, dans ce genre de moment un peu où on se met à imaginer un petit peu ce qui pourrait arriver dans le futur, et on est toujours après coup incroyablement déçu parce qu'évidemment ça ne faisait pas autant de merveilles que peut-être que ce qu'on avait imaginé. Mais je trouve ça toujours très intéressant, quoi, ce genre de moment.
Ouais, c'est un côté émotionnel hyper intéressant, et on aime bien la tech aussi pour ces moments-là, de toute façon, ça c'est clair. C'est ce qui conclut cette première section de Tech Café de cette semaine. Donc comme je disais en intro, rendez-vous dans quelques jours pour la suite. Quand même, on va pas déroger la tradition, on va rappeler à tous ceux qui nous ont écoutés juste pour cet épisode qui était uniquement là pour les annonces Surface, où on peut nous retrouver. Kassim, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet?
On peut me retrouver sur Twitter @notkassim, notc@2sim, et sur frandroid.com.
Merci beaucoup Kassim d'avoir été présent pour Tech Café et puis de nous avoir fait tous ces relais de news. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Vous me retrouvez sur Telegram, mais vous me retrouvez sur Tech Café très très vite apparemment.
Alors oui, très très vite, ça ne serait tarder. Merci beaucoup à tous les deux, moi c'est Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou dans quelques jours pour la suite de cet épisode fleuve de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao.
Ciao.